Dans le psaume 8, nous entendons « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis la majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Prions. Notre Dieu très haut, tout puissant, éternel, Père, Fils et Saint-Esprit, nous reconnaissons que tu es Dieu, le seul Dieu vivant et vrai, et nous te louons pour ta grandeur et ta majesté, et nous te remercions parce que nous te connaissons comme notre Dieu, parce que tu t'es révélé comme un Dieu qui est pour nous. Aide-nous ce matin et tout ce week-end à sonder et à saisir ce que tu as révélé par rapport à tes promesses et la relation que tu as établie avec nous dans ta grâce. Notre Père, nous te prions au puissant nom de ton Fils Jésus-Christ de nous remplir de ton esprit pour qu'il nous aide à grandir dans notre connaissance et dans notre amour pour toi, et aussi dans notre amour les uns pour les autres. Saint-Esprit, utilise chacun de nous ici présents pour encourager ceux et celles qui sont là, assis à nos côtés. Dieu de toute grâce, sois honoré et glorifié parmi nous, et par nous, dans l'Église et dans le monde. Amen. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Voici la première phrase du symbole de Nicée que nous confessons ensemble de temps en temps à la chapelle de Nesle. Et il s'agit d'une des vérités les plus fondamentales que nous croyons et que nous confessons en tant que chrétiens. Et ce que nous allons étudier ce week-end va servir à nous aider à mieux comprendre cette vérité, pour que nous puissions la confesser de manière plus profonde. Pour ceux d'entre vous qui sont membres de la chapelle de Nesle et donc qui ont suivi la classe de membres, vous aurez entendu qu'une des particularités de notre Église, c'est l'importance que l'on donne à ce qu'on appelle la théologie de l'Alliance, la théologie d'Alliance. C'est d'ailleurs une des raisons que nous organisons cette conférence, cette formation pour nous tous, pour nous aider à comprendre ce que ça veut dire. La théologie d'alliance. Mais si nous parlons de théologie d'alliance ou l'importance de l'idée d'alliance, ce n'est pas parce que nous voulons être différents des autres églises, mais au contraire parce qu'on est convaincu d'abord que c'est ce qu'enseigne la Bible. Et donc c'est vraiment la vérité de la Bible. Et c'est l'idée d'alliance qui nous aide le mieux à comprendre la structure, l'histoire et la raison d'être même de la Bible. Et c'est donc l'idée qui nous aide à mieux comprendre la relation avec Dieu, la relation de l'homme avec Dieu et le salut que Jésus-Christ nous donne. C'est l'alliance qui nous aide à comprendre tout ça. C'est pourquoi tout ce que nous étudierons ce week-end devrait nous aider non pas à comprendre en quoi on est différent des autres, mais justement pour mieux comprendre ce que nous confessions et comprendre une de nos confessions les plus basiques, telle que notre confession que nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Si nous voulons croire l'Alliance, comprendre l'Alliance, c'est pour qu'on puisse mieux comprendre ça. Parce que si nous devons parler d'Alliance, on est convaincu que la Bible nous oblige de parler d'alliance, c'est principalement parce que Dieu est le Créateur et nous sommes ses créatures. C'est à cause de ça qu'on parle d'alliance, parce que c'est lui le Créateur et nous les créatures. Voici la distinction et la différence la plus basique entre nous et Dieu. Il est Créateur et nous, avec toute autre chose qui existe, autre que Dieu, nous sommes ses créatures. Le professeur Donald Carson a dit que la première responsabilité de toute créature consciente et morale et de reconnaître sa créaturité. Vous direz peut-être, c'est pas français, créaturité, mais le mot qu'il utilise dans l'anglais n'est pas anglais non plus. Donc, je me suis permis de créer un nouveau mot. Mais la première responsabilité, c'est de reconnaître sa créaturité. Et en gros, nous devons reconnaître tout d'abord que nous sommes des créatures. Cette distinction entre créateur et créature et la distinction entre Dieu et toute autre chose. C'est la distinction la plus basique pour comprendre ce que nous sommes. Dieu est Dieu tout d'abord. Il est qui il est et ce qu'il est. Et ensuite, il est créateur. Nous sommes tout d'abord créatures. Et puis, nous sommes ce que nous sommes. Et qui nous sommes. La distinction entre Dieu et nous, entre ce qu'il est et ce que nous sommes, est infinie. Dans la confession de foi de La Rochelle, un des textes confessionnels de notre Église, dans le premier article, nous disons que nous croyons et confessons qu'il y a un seul Dieu, qui est une seule et simple essence spirituelle, éternelle, invisible, immuable, infinie, incompréhensible, ineffable, qui peut toute chose, qui est toute sage, toute bonne, toute juste et toute miséricordieuse. Il est infiniment différent de ce que nous sommes. Jean Calvin a écrit dans son Institution chrétienne, par rapport à l'infinité et la spiritualité de Dieu, l'infinité de son essence devrait nous impressionner au point de nous décourager de l'évaluer avec nos faibles capacités. Et sa nature spirituelle nous décourage de nous empêcher de spéculer sur ce qui pourrait se trouver en lui de terrestre ou d'humain. Donc, il est complètement différent. Il dit ailleurs que l'essence de Dieu est incompréhensible au point que sa majesté semble cachée et échappe à nos sens. Il est vraiment au-delà de ce que nous pouvons comprendre et savoir. Et ces réflexions des réformateurs et de toute l'Église qui était là avant, ce sont ces réflexions sur la nature de Dieu qui ont nourri le développement de ce que l'on appelle la théologie d'alliance. Dans l'histoire de l'Église, et en particulier l'histoire de la Réforme protestante, on peut suivre le développement de la théologie d'alliance en regardant les ouvrages des théologiens et des pasteurs de l'époque. Et je passe l'histoire détaillée pour nous donner un peu de temps. Mais c'est dans les années 40 du XVIIe siècle que nous voyons un peu le point culminant de la Réforme, au moins en termes du développement de la théologie de l'Alliance. Parce que c'est là que nous voyons une confession de foi qui est structurée très clairement par rapport à la théologie d'Alliance. Dans la providence de Dieu, la Réforme a pris un peu plus lentement au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, qu'ailleurs. Et donc, pour des raisons diverses, le Parlement à Westminster, à l'époque, c'était le Parlement d'Angleterre et du Pays de Galles, a convoqué une assemblée des meilleurs théologiens du pays pour rédiger une meilleure confession de foi que ce qu'ils avaient déjà et ce que l'Église anglicane a encore, une confession plus détaillée et plus solidement réformée. Et cette confession de Westminster, c'est cette confession qui parle le plus explicitement en termes d'alliance. Donc, dans les autres confessions de foi, ils sont très, très bien, mais ils ne parlent pas en termes d'alliance. C'est vraiment Westminster qui parle plus explicitement et qui est structuré par l'idée d'alliance. Donc, le professeur Cornelis Venema dit « La meilleure source pour déterminer le consensus réformé historique sur la doctrine de l'Alliance est sans aucun doute la confession de foi de Westminster. » Donc, je vais faire pas mal référence aux documents de Westminster. Donc, je vais vous donner une fiche avec les extraits clés. Et donc, la confession et les catéchismes qui vont avec cette confession. Donc, le petit catéchisme, c'est ce qu'on étudie dans notre groupe Profondeur à la Chapelle de Nesle. Et j'utilise ces documents-là, non pas parce que je les aime plus que d'autres confessions, mais tout simplement parce que c'est la confession qui parle le plus en termes d'alliance. Et c'est cette confession qui va nous aider le plus à comprendre l'alliance. Et en fait, la confession consacre tout un chapitre à l'alliance de Dieu avec l'homme. Et donc, vous aurez ce chapitre avec vous. Et il vaut le coup de l'étudier. On va regarder le premier paragraphe pour l'instant. Donc, regardons le premier paragraphe. La distance entre Dieu et la créature est si grande que, bien que les créatures raisonnables lui doivent obéissance en tant que leur créature, elles ne pourraient jamais avoir la moindre jouissance de lui comme bénédiction et récompense, si ce n'est pas un certain accommodement volontaire de la part de Dieu qu'il a plu d'exprimer par le moyen d'alliance. Voici le premier paragraphe du chapitre. Et on commence avec cette distance qu'il y a entre Dieu et nous. Là, on parle de cette différence infinie de ce que nous sommes. Ce n'est pas qu'il est X kilomètres entre nous et nous et Dieu, mais c'est une distance de ce que nous sommes, distance dans l'être. Lui, Dieu, nous créature. On sait instinctivement que nous devons obéir à Dieu. Donc, même s'il est complètement loin, on sait instinctivement qu'on lui doit obéissance. Et Dieu nous a créés de façon à ce qu'on sache cela. Et ça, on va regarder plus tard. Et nous savons, puis ensuite, que nous existons pour Dieu. Mais, à cause de la distance, je ne peux pas savoir comment vivre pour lui. Nous savons que c'est lui notre raison d'être, mais nous ne pouvons pas savoir comment cette raison d'être s'accomplit sans que Dieu nous le dise. Et puisqu'il y a cette distance entre nous, pour qu'il nous dise de façon à ce qu'on puisse comprendre ce qu'il dit, il faut un certain accommodement, une condescendance. Et c'est l'idée de l'accommodement ou la condescendance qui figure pas mal dans la théologie de Jean Calvin. Il vient à notre niveau. Par exemple, il dit dans son institution, « Qui ne comprend pas, quand nous parlons, Dieu bégaye, si l'on peut dire, à la façon des nourrices avec les bébés, sa manière de s'exprimer, la manière de s'exprimer de Dieu n'est pas tant destiné à se faire connaître lui-même, c'était dans ce qu'il est, parce qu'on ne peut pas, c'est au-delà de ce que nous pouvons comprendre, que de s'accommoder à notre compréhension limitée. » Donc c'est comme ça que Dieu nous parle. Et il faut un cadre pour cet accommodement. Et la façon, le cadre que Dieu a choisi pour s'accommoder à nous, c'est cette chose qu'on appelle alliance. Quand on parle d'alliance, on parle du cadre de la relation que Dieu a établie avec sa création. Il n'y a pas d'autre relation possible entre nous et notre Créateur. Et comme on verra dans la prochaine séance, il n'y a aucune partie de la création qui est en dehors de ce cadre que Dieu a établi. Aucune personne n'est en dehors de ce cadre. Dans un sens, l'acte de la création même est une condescendance. L'acte de la création fait partie de l'établissement de l'alliance de Dieu avec sa créature. Il prépare la scène pour l'homme, pour qu'il puisse conclure une alliance avec lui. Et principalement, il a créé le monde pour qu'il puisse créer cette alliance avec le chef de la création, l'homme. Et donc, c'est le cadre qu'il a choisi. Le cadre de notre relation avec Dieu est alliantiel ou fédéral. Quand on parle d'être fédéré, fédéral, c'est juste le mot latin pour alliance. Donc, il y a le lien fédéral. Le théologien James Parker a dit ceci. On ne comprend pas l'évangile de Dieu correctement tant qu'il n'est pas considéré dans un cadre alliantiel. Il dit aussi, on ne comprend pas la parole de Dieu correctement tant qu'elle n'est pas considérée dans un cadre alliantiel. Et même, on ne comprend pas la réalité de Dieu correctement tant qu'elle n'est pas considérée dans un cadre alliantiel. Mais bon, si le cadre de notre relation à notre Créateur est alliantiel, qu'est-ce qu'une alliance finalement ? Et bien évidemment, la question était pas mal étudiée au fil des années. Et on a de plus en plus d'ouvrages qui traitent la question. Malheureusement, pas énormément en français, mais prions que ça avance. Mais on a quelques-uns quand même. Et donc, on peut en acheter plus tard. Et on prie pour l'apparition d'autres. Commençons avec une définition très basique. C'est la définition donnée par John T. Rhodes. C'est un ami à moi, un collègue dans mon consistoire, dans la dénomination à laquelle j'appartiens. Et il a écrit un livre. Si vous lisez l'anglais, c'est vraiment très bien. En anglais, il s'appelle Raiding the Lost Ark. Et il y a une édition américaine, Covenants Made Simple. C'est le même livre, mais de titres différents. Mais c'est un livre vraiment, comme introduction, c'est vraiment super. Et donc, il a donné une introduction très simple à la théologie d'alliance. Et sa définition, qu'il reconnaît être très simpliste, mais voici sa définition. Une alliance est un accord entre Dieu et les êtres humains par lequel Dieu permet des bénédictions si l'on garde les conditions et menace des malédictions si l'on enfreint les conditions. Voici la définition la plus basique d'une alliance. L'idée de base, un accord entre Dieu et les êtres humains par lequel Dieu promet des bénédictions si l'on garde les conditions et menace des malédictions si l'on enfreint des conditions. Mais la meilleure définition est celle qui est largement acceptée et la définition qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la définition du professeur Palmer Robertson dans son livre The Christ of the Covenants. On prie que ça va apparaître bientôt en français. Si vous êtes à la chapelle de Nesle, vous aurez entendu ce nom pendant l'été. Je l'ai pas mal cité pendant la série sur les psaumes, parce qu'il a écrit un livre sur les psaumes. Et donc, j'ai utilisé sa façon de comprendre la trame des psaumes. Mais professeur Robertson a écrit un chef-d'œuvre sur la théologie d'alliance. Et sa définition, que nous allons utiliser ce matin, et c'est vraiment la définition qu'on va essayer de retenir, c'est une alliance, c'est un lien ancré dans le sang, administré souverainement. Donc voici encore des mots, des longs mots techniques, donc ne vous inquiétez pas. Un lien ancré dans le sang, administré souverainement. Donc on a trois éléments. Il s'agit d'un lien. Le lien est ancré dans le sang et le lien est administré souverainement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc d'abord, il s'agit d'un lien. Une alliance, c'est une relation proche, où il est question d'engagement. Pas juste une relation, mais une relation avec un engagement. Les deux parties sont complètement engagées les uns envers les autres. C'est une relation formalisée. Elle est formalisée par des paroles. Et ces paroles peuvent être officialisées, garanties ou scellées de différentes façons, par l'écrit, par des signes, par des vœux, par des cérémonies, par des actes particuliers. Il y a plusieurs façons de formaliser le lien. Et prenons un exemple que nous connaissons très bien, la Bible même. Pourquoi avons-nous un livre? On se pose rarement la question, peut-être jamais, mais pourquoi avons-nous un livre? Je sais que ça peut pas exister en France, mais au Royaume-Uni, où j'ai grandi, on a des cours de religion à l'école. Je vais pas dire que c'est bien ou mal, plutôt mal dans les cours que j'ai eus. Mais je me souviens, en sixième, je pense que c'était en sixième, on a dû apprendre par cœur un tableau avec les six grandes religions du monde. Et on avait plusieurs colonnes, donc fondateur, date, symbole, lieu de culte, livre sacré, donc on devait apprendre chaque élément pour chaque religion. Et parce que, bien évidemment, chaque religion a tous ces éléments-là, toutes les religions ont un livre sacré. Et donc, c'est pour ça que nous, on a Bible, parce qu'on est une religion, donc il faut remplir la case livre sacré, et donc voilà. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a un livre. Ce n'est pas forcément donné qu'on ait un livre. La Bible a une fonction très précise. Et c'est pas de remplir cette case de livre sacré pour le christianisme. C'est le texte, le livre de l'alliance. C'est un moyen que Dieu a choisi pour formaliser, pour révéler son alliance. Une alliance, c'est un lien. Puis c'est un lien qui est ancré dans le sang. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Robertson nous aide en disant autrement. Il dit, c'est un lien de vie et de mort. C'est un lien qui engage le sang, si on peut dire ainsi. Il s'agit d'un lien où les parties risquent leur sang. C'est un engagement ultime. Il n'est pas question tout simplement de quelques petites bénédictions ou malédictions, mais de vie et de mort. En hébreu, la langue de l'Ancien Testament, le mot utilisé pour établir une alliance, c'est littéralement couper. On coupe une alliance. Et on voit du langage des signes. Donc, il y a des signes liés à l'idée de couper dans les alliances. Donc, dans l'alliance sous Abraham, il y a la circoncision où on coupe, ainsi que la cérémonie dans Genèse 15 où Abraham doit couper des animaux. Il s'agit de sang et de mort comme symbole de cet engagement. On voit également que très souvent, les signes de l'alliance que donne Dieu, il donne toujours des signes pour dire « je vais vraiment faire ça ». Les signes ont toujours un double sens. Ils peuvent signifier à la fois la vie et la mort. Ils ont toujours un double sens. Le sang de la circoncision peut signifier et la vie et la mort. L'idée d'être coupé, séparé, qui est derrière la circoncision, peut signifier être séparé du monde pour Dieu ou l'idée d'être séparé de Dieu. Pareil avec le baptême, il peut signifier l'Esprit versé sur nous pour la vie, la résurrection, la purification des péchés, mais en même temps, ça peut signifier le jugement de Dieu, comme il a porté au temps de Noé et en Égypte. Au temps de Noé, il y avait un baptême, certains sont morts par ce baptême, d'autres ont vécu parce qu'ils étaient dans l'arche. Donc, mais c'était le même baptême qui ont tué d'autres, certains, et qui ont fait vivre d'autres. Donc le lien est ancré dans le sang, et le fait de garder les conditions ou pas mène soit à la vie, soit à la mort. Puis troisième élément, administrer souverainement. D'abord, lorsqu'on parle d'administration, on parle de gestion, mais plus il s'agit de faire profiter, faire participer. Donc, si l'alliance est administrée, c'est on fait en sorte que quelqu'un profite de l'alliance. Et il y a quelqu'un qui fait en sorte que ça se passe et elle est administrée de manière souveraine. C'est-à-dire qu'il y a une des parties qui établit l'alliance. Il y a une partie supérieure. La conclusion d'une alliance est unilatérale. C'est une des parties qui établit l'alliance. Et donc, c'est cette personne qui coupe l'alliance. Robertson explique, les alliances divines de l'Écriture ne consistent pas en marchandage, troc ou contrat. Il n'y a pas de négociation dans une alliance. Dieu établit l'alliance. Les conditions s'appliquent aux deux parties, et donc c'est aux deux parties de garder l'alliance, mais l'alliance est administrée par un souverain qui s'accommode volontairement. Une alliance est un lien ancré dans le sang, administré souverainement. Donc il y a certains éléments que nous pouvons observer à certains moments dans l'histoire de la Bible qui peuvent nous signaler qu'il s'agit de Dieu qui établit ou qui réétablit son alliance avec son peuple. Parfois, la Bible en parle de manière très explicite, en parlant clairement d'alliance, mais même lorsque la Bible n'utilise pas le mot alliance, il y a d'autres indices aussi. Puisqu'il s'agit d'administration souveraine, lorsque nous voyons Dieu parler au peuple pour le rappeler de sa souveraineté, sa supériorité, sa puissance, sa relation envers le peuple et de ce qu'il a fait pour eux, on doit se poser la question, est-il en train de couper ou d'approfondir une alliance là? S'il rappelle les gens de sa position supérieure, sa souveraineté, est-ce qu'il est sur le point ou en train d'établir une alliance? Puis, puisqu'il s'agit d'un lien ancré dans le sang, si Dieu parle des exigences qu'il place sur son peuple, les conditions par lesquelles on peut vivre ou mourir, là, on doit penser en termes d'alliance. Donc, quand il place des conditions comme ça, Il y a quelque chose d'alliantiel là. Si Dieu parle de vie et de mort, de bénédiction ou de malédiction, ça devrait faire penser à l'alliance. Et puisqu'il s'agit de liens entre deux parties, lorsqu'il est question de représentatives, de représentants, d'individus, quelqu'un qui représente un peuple, c'est parce qu'il y a un lien qui se conclut là. Donc, pourquoi on représente quelqu'un pour ce processus d'établir une alliance. Et puis, puisqu'il s'agit de liens, l'élément ou la phrase par excellence qui doit toujours crever les yeux et qui crie « alliance », c'est la phrase « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». C'est ça qui est au cœur de l'alliance. C'est ce que Pamela Robertson appelle le principe Immanuel. Dieu avec nous, le principe Immanuel. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. C'est ça qui est toujours au cœur de ce que c'est une alliance. Parce que c'est un lien. Dieu pour nous, nous pour Dieu. Donc c'est pour ça qu'on a une conférence pro nobis en latin, pour nous. Dieu qui s'engage envers nous. Dieu avec nous. Dieu s'engage à prendre un peuple à lui-même et à être leur Dieu. Il n'est pas juste... Il n'est pas juste Dieu, il est notre Dieu. Et donc, dans les 10 commandements, vous prendrez pas le nom de l'Éternel, votre Dieu, en vain. Il ne faut pas sauter ça. C'est l'Éternel qui est votre Dieu, le Dieu qui s'est engagé envers vous. C'est ça la phrase qui est vraiment au cœur du sens de l'Alliance. En gros, tout ce qui suggère... Quand on lit la Bible, si on voit quelque chose qui suggère une relation ou un lien ancré dans le sang et administré souverainement, ça fait penser à l'alliance. Et bien sûr, nous, on fait des choses un peu à l'envers. Nous ne voulons pas penser que c'est nous qui imposons cette définition d'alliance sur la Bible. C'est la Bible qui révèle ce que c'est une alliance. Nous, on profite du travail des autres qui ont creusé la Bible comme Robertson, mais d'autres, comme l'Assemblée de Westminster, qui ont creusé ce que c'est une alliance. Et voici les résultats. Donc, c'est pas qu'on veut imposer ces catégories sur la Bible, c'est on trouve ces catégories dans la Bible et on les fait mettre ensemble. Et c'est ça une alliance dans la Bible. On veut profiter du fruit de leurs études. Et donc, cette définition peut nous servir de raccourci pour identifier les éléments qui font penser à la nature alliantielle ou fédérale de notre relation avec Dieu. Mais jusque-là, on est resté un peu dans l'abstrait, donc ce que c'est une alliance généralement, mais concrètement, quelle est l'alliance que Dieu a conclue avec l'homme? Ou plutôt, quelles sont les alliances de Dieu avec l'homme? Il s'agit de deux alliances. Deux alliances. On a d'abord l'alliance avec Adam, qu'on appelle souvent l'alliance des œuvres. On peut l'appeler également l'alliance de vie ou l'alliance de la création. C'est l'alliance par laquelle Dieu a promis la vie éternelle, parfaite, immuable, en communion avec lui s'il obéissait, mais la mort s'il n'obéissait pas. Donc, dans la Confession de foi de Westminster, nous lisons « La première alliance conclue avec l'homme a été une alliance des œuvres, dans laquelle la vie a été promise à Adam et en lui à sa postérité, donc sa descendance, sous la condition d'une obéissance parfaite et personnelle. » Et le petit catéchisme l'appelle une alliance de vie. Donc si on parle de l'alliance des œuvres, c'est la condition. Alliance de vie, c'est la promesse. Donc on peut l'appeler alliance de vie. Mais bien sûr, on connaît l'histoire. Adam a désobéi. Et donc, il a péché. Et donc, ils ont déchu de cet état d'innocence. Et la question 16, on voit que Adam a désobéi en tant que représentant. Si lui a choisi de désobéir, c'est toute l'humanité. En lui, nous avons tous péché, selon Paul. Donc, il a péché en tant que représentant. S'il s'agit d'alliance, il s'agit d'un lien ancré dans le sang. Et donc Adam et Ève auraient dû mourir là tout de suite au moment de briser l'alliance. Mais au lieu de faire ça, Dieu, par sa pure grâce, établit tout de suite une deuxième alliance. La question 20 du petit catéchisme. Dieu, ayant élu certains à la vie éternelle de son simple plaisir, est entré dans une alliance de grâce pour les délivrer de l'état de péché et de misère et pour les faire entrer dans un état de salut par le moyen d'un rédempteur. On lit aussi dans la confession de foi, l'homme, par sa chute, s'étant rendu incapable de la vie par cette alliance, le Seigneur a bien voulu en conclure une deuxième, généralement nommée l'alliance de grâce. Dans cette alliance, il offre gratuitement aux pécheurs la vie et le salut par Jésus-Christ, exigeant de la foi en celui-ci afin d'être sauvé et promettant de donner son Saint-Esprit à tous ceux qui sont destinés à la vie afin de les rendre disposés et capables de croire. Donc l'idée, c'est que l'on puisse être transféré du premier Adam au deuxième. Et donc cette alliance a été conclue avec Jésus, et donc on a cette alliance de grâce. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse être transféré du premier Adam vers le deuxième. Et cela par la foi que nous donne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint donne la foi pour qu'on puisse transférer, changer de représentant devant Dieu, pour qu'on soit plus représenté par Adam premier et pour qu'on soit représenté par Adam 2, Jésus-Christ. Et dans les deux exposés théologiques que nous allons étudier tout à l'heure, nous allons comparer les deux alliances, l'alliance des œuvres et l'alliance de la grâce. Mais je vais juste signaler une différence importante pour l'instant avant de voir d'autres points essentiels au sujet de l'alliance de la grâce. Pour comparer les deux alliances, il vaut le coup de comparer les dynamiques des deux alliances ou la structure des deux alliances. Les deux alliances commencent avec ce que l'on pourrait appeler très généralement la grâce. Donc, au début, on a la grâce. Or, c'est pas pour dire que dans l'alliance des œuvres, il fallait la grâce comme si Adam était pécheur. Pas la grâce dans ce sens-là. Il avait rien fait pour démériter l'amour de Dieu. Mais je dis grâce uniquement dans le sens qu'il s'agit de la faveur souveraine et libre de Dieu, la faveur que Dieu n'était absolument pas obligé d'exercer. Or, avec de l'alliance à la grâce, il s'agit bel et bien de faveur et d'amour démérité, faveur malgré le péché et la rébellion, donc vraiment grâce dans ce sens-là. Mais dans les deux cas, il s'agit de faveur souveraine au début. Donc Dieu fait grâce ou montre sa faveur envers son peuple. Puis ce qui suit, c'est la loi. Donc il y a la grâce de Dieu, puis il y a des exigences, la loi. Et puis normalement, ce à quoi on s'attend, c'est soit une bénédiction ou une malédiction. Donc on a grâce, loi, puis soit une bénédiction, soit une malédiction. Et c'est justement ça qu'on a dans l'alliance des œuvres. Et justement, c'est une malédiction parce qu'il y avait eu désobéissance. Donc on a grâce et loi, mais puis malédiction parce qu'Adam a désobéi. Mais dans l'alliance de la grâce, ayant expliqué les malédictions et les bénédictions, il y a des malédictions pour ceux qui rejettent absolument l'alliance, ceux qui tournent complètement le dos, qui démontrent qu'ils n'ont absolument pas de foi. Il reste des malédictions pour ceux qui sont sous l'alliance de la grâce, mais qui rejettent complètement. Mais dans l'alliance de la grâce, il est possible d'être dans la fameuse phrase de Martin Luther, simul justus et peccator, à la fois juste et pécheur. C'est pas qu'on veut pécher, mais la réalité, c'est que l'on est encore pécheur. Mais s'il y a loi, qu'est-ce que je fais? Nous l'avons l'espérance qu'il y a encore la grâce. Sous l'alliance des œuvres, il est impossible d'être simul justus et peccator. Dans l'alliance des œuvres, si on est peccator, c'est fini. Si on est pécheur, c'est la fin. Et donc, il est possible d'avoir encore de la grâce à la fin si on est sous l'alliance de la grâce, on reçoit la grâce, puis à la loi de Dieu. Et si je rejette tout ça complètement, il y a des malédictions. Mais si j'ai la foi, mais je n'ai pas gardé parfaitement la loi, il y a quand même la grâce de Dieu qui vient à la fin. Parce qu'il y a Jésus qui a pris les malédictions sur lui. Mais ça, on va voir plus tard. Donc, il nous reste encore deux choses à regarder vite fait. Mais on va juste résumer ce qu'on a vu jusque-là. Pourquoi on parle de l'idée d'alliance? Pourquoi elle est importante? Parce qu'il est question de cette distance entre Dieu et la création. Et pour qu'on puisse connaître Dieu, il faut qu'il s'accommode à nous. Et l'alliance, c'est le cadre que Dieu a choisi pour faire cela. C'est le cadre de cet accommodement. Puis, c'est quoi une alliance? C'est un lien ancré dans le sang, administré souverainement. Puis, quelles sont les alliances? Il y en a deux. L'alliance des œuvres en Adam et l'alliance de la grâce en Jésus-Christ. Il nous reste un dernier élément clé pour comprendre les alliances. Et puis, je vais dire quelques mots par rapport à la suite de la conférence. Donc, le dernier point clé pour comprendre les alliances et l'alliance de la grâce en particulier, c'est le principe, encore de mots très longs, de progression organique. Alors, qu'est-ce que ça veut bien dire? Je vais essayer d'expliquer en quelques façons. En gros, c'est juste pour dire que l'alliance de la grâce est une seule alliance qui a été administrée différemment à travers les âges. Dieu a fait profiter son peuple de cette alliance de différentes manières à travers les âges. Mais c'est la même alliance toujours. C'est le même organisme dans un sens, une seule chose, mais c'est un organisme qui progresse, qui développe. À la chapelle de Nel, vous m'aurez entendu donner cette illustration pour décrire la Bible, mais c'est parce que c'est également vrai pour l'alliance de la grâce. Si on avait une plante et on prenait des photos à des moments différents, on aurait plein de photos différentes. On aurait une photo d'une graine, une autre d'un germe, puis d'un tige, un tronc, un arbre avec des fruits et des fleurs, plein de photos très différentes. Mais dans toutes les photos, il s'agit de la même chose. Le même objet avec exactement le même ADN. C'est le même arbre, c'est la même plante. Et donc, à chaque étape, l'organisme est une chose complète. On peut être plus ou moins développé que d'autres étapes. Mais on ne dirait pas, par exemple, qu'un germe est une demi-plante. C'est une plante entière, mais en phase moins développée que d'autres phases. Et c'est pareil avec l'alliance de la grâce. Il s'agit toujours de la même chose, mais son apparence développe à travers les âges. Et là, on parle de plusieurs alliances dans la Bible. Donc, on peut parler de plusieurs alliances, comme on verra tout à l'heure cet après-midi. On parle par exemple de l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, Moïse, David, nouvelle alliance. On parle d'ancienne alliance et nouvelle alliance. Et c'est vrai que nous voyons que Dieu a établi plusieurs alliances au cours de l'histoire. Mais chaque alliance est dans un sens une sous-alliance. Avec chaque alliance, il s'agit d'une nouvelle administration de l'alliance de la grâce. C'est un cadre pour administrer la grâce de Dieu et cette même alliance de grâce en Jésus-Christ. C'est un cadre pour profiter de Jésus, même avant que Jésus vienne. Une nouvelle façon de communiquer au peuple de Dieu le salut qui se trouve en Jésus et de le donner, de l'administrer à son peuple. Si on veut être sauvé, il faut Jésus-Christ, il faut être uni à Jésus-Christ. Comment cette union avec Jésus-Christ, comment est-ce qu'on profite de cette union avec Jésus-Christ? Maintenant, c'est sous la nouvelle alliance. Avant, c'était sous des alliances différentes, mais c'est toujours Jésus-Christ qui est celui qui nous sauve. C'est toujours la même alliance, mais on a d'autres alliances pour administrer cette alliance. Donc, on voit une progression avec chaque alliance ou chaque administration de l'alliance à la grâce. Et chaque administration s'appuie sur l'administration qui vient juste avant. Souvenons-nous que c'est sous l'administration de Moïse, ou l'ancienne alliance, ou le temps de la loi, que nous voyons l'introduction de paroles écrites, le début de la Bible. Donc c'est une administration qui est donc très visible, très évidente dans les Écritures, l'alliance sous Moïse, jusqu'au point, c'est cette alliance qu'on appelle l'ancienne alliance, pour la comparer avec la nouvelle. Donc dans le cinquième paragraphe de la confession de foi, dans le chapitre 7, la description, on voit la description de l'idée d'administration différente. Là, on regarde juste l'ancienne et la nouvelle, mais le même principe applique aux autres administrations. Notons qu'il s'agit de la même alliance qui est administrée à ces différents moments. C'est ça, en fait, la différence principale entre les réformés et les réformés baptistes. Bien sûr, il y a des différences en termes de nos pratiques, de qui on veut baptiser, mais ces différences-là sont basées sur un désaccord sur cette question-là. Donc, les réformés baptistes ont une confession de foi écrite en 1689, qui est quasiment copier-coller de la confession de foi de Westminster. Donc ça, c'est très bien. Mais il y a des éléments qu'ils ont changés. Et un des chapitres qui est radicalement différent, c'est le chapitre 7, sur l'alliance de Dieu avec les hommes. Le premier paragraphe est pareil. Mais puis, ils ont que deux paragraphes après ça. Ils sont vraiment très différents. Donc c'est sur cette question d'une seule alliance administrée de différentes façons qu'on est vraiment en désaccord, même si on les aime bien. Mais j'espère qu'il deviendra évident d'ici la fin de la journée qu'il s'agit bel et bien d'une seule alliance administrée de différentes façons. Juste pour vous donner une idée, je cite par exemple Hébreux 3, Hébreux 3, 5 et 6. Il dit « Pour Moïse, il était fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. » Notez qu'il s'agit d'une seule maison. Deux administrations différentes, mais un seul peuple, une seule maison, mais on verra plus par rapport à ça plus tard. Si on parle d'une seule alliance, de progression organique, c'est parce qu'il s'agit d'une seule histoire. Et c'est l'histoire du royaume ou du règne de Dieu. Une version plus détaillée qu'a donnée un de mes profs de faculté de théologie, et c'est également un collègue dans ma dénomination, mon consistoire. L'histoire de la Bible, même au tout début de la Bible dans le Jardin d'Éden, c'est toujours le royaume de Dieu dans une nouvelle création, sous son fils et son épouse, dans l'attente d'un repos de sabbat. On verra plus sur ça plus tard, mais c'est ça l'histoire de la Bible. Le royaume de Dieu dans une nouvelle création, sous son fils et son épouse, dans l'attente d'un repos de sabbat. L'histoire... Pardon ? On verra ça plus tard. Au début, c'est Ève. À la fin, c'est l'Église. L'histoire est la même, et c'est l'alliance qui structure, qui donne le cadre de cette histoire. C'est par cette structure d'alliance que Dieu a cherché de réaliser ce projet. Et donc, c'est lorsque nous comprenons les alliances que nous pouvons passer de l'histoire au salut. Si nous voulons voir comment je peux profiter de l'histoire que je lis, c'est l'alliance qui me permet de comprendre la pertinence de l'histoire pour moi. C'est l'alliance qui explique en quoi l'histoire de la Bible me concerne. Et c'est l'alliance qui explique comment je peux profiter du salut et de la grâce de Dieu, qui est le Dieu qui nous a créés. Comment je peux vivre sous le règne du roi de Dieu. C'est l'alliance qui fait le lien. C'est l'alliance qui rend possible. Donc voici les quatre choses qu'on doit saisir par rapport à la théologie d'alliance. Si vous voulez juste retenir quatre choses d'aujourd'hui, juste ces quatre choses. Et si vous oubliez tout ce que vous entendez, au moins de ma part, Samuel, bien sûr, il faut tout retenir, mais au moins de ma part, il faut juste retenir ces quatre choses, et voilà, il y aura d'autres choses importantes, mais vraiment ça, il faut saisir. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a cette distance, et l'alliance est le cadre que Dieu a choisi pour s'accommoder à nous. C'est quoi un lien entré dans le sang administré souverainement? Il y a deux alliances, l'alliance des œuvres avec Adam et sa postérité, et l'alliance de la grâce avec le Christ et tous ceux qui lui appartiennent. Puis l'alliance de grâce, on voit plusieurs époques, plusieurs administrations différentes, mais il s'agit toujours d'une seule alliance. Et juste avant de finir, je vais introduire un peu la suite, un peu le concept de cette conférence Pro Nobis. L'idée de cette conférence, c'est que chaque année, donc l'idée c'est qu'on le fasse chaque année déjà, mais l'idée c'est qu'on regarde ensemble la théologie d'alliance, comme on fait là, avec tous ces éléments différents, toutes ces catégories différentes. Et puis on prendra un thème et on va étudier comment ce thème se développe dans le déroulement des alliances. C'est ça l'idée de la conférence. Donc on pourrait prendre le thème du travail et du repos, par exemple, et suivre comment on voit ces choses se développer dans le cadre de l'alliance. Ce n'est pas ce thème qu'on va prendre cette année, mais peut-être une autre année. Et puis on va prendre du temps dans les ateliers pratiques pour se poser des questions pratiques sur l'impact de tout ça. Sur nos vies quotidiennes. Cette année, on a dû raccourcir un peu, on a réduit, donc on aura un seul atelier cet après-midi. Mais on ne sait jamais, on va peut-être faire l'autre atelier à un autre moment dans l'année. Mais le thème qu'on a pris pour cette année, puisque une alliance, il s'agit d'un lien, on va voir dans les séances à venir comment la communion de Dieu, ce lien, se vit dans le cadre des alliances. C'est la communion de Dieu. Donc, c'est ça notre thème, le fait de connaître Dieu, ce qui est notre raison d'être. Mais c'est ça ce qui est vraiment au cœur de l'Alliance. Et donc, on veut étudier ça. Souvenons-nous de ce principe. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. On veut étudier ça ensemble. Je ne peux pas ne pas citer la première question du petit catéchisme de Westminster quand même. Quelle est la raison d'être principale de l'homme? La raison d'être principale de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. On va étudier comment ça se fait par les alliances. Et je vais juste donner vite fait une définition de la communion du théologien John Owen qui a écrit son chef-d'œuvre sur la communion avec Dieu. Voici sa définition. La communion est la communication mutuelle de telles bonnes choses dans lesquelles les personnes qui la détiennent sont ravies, fondée sur une certaine union entre elles. La communion est fondée sur une union, l'alliance, et notre union avec Christ, donc notre union avec ceux qui nous représentent, et une communication mutuelle des choses qui nous ravissent. Donc c'est ça la communication, c'est la communion. C'est la joie entre les deux parties, basée sur une union, un lien comme ça.